Donc, Raphaël, une autre journée mouvementée aux États-Unis. Deux associés de l'avocat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York, qui ont été arrêtés.
Qui ont été arrêtés de façon subite, de façon inattendue, alors que, de ce qu'on en comprend, ils essayaient de fuir le pays. Donc, ils sont maintenant dans une position où ils vont faire face à la justice américaine. Et Rudy Giuliani, dans la rare situation où il est excessivement silencieux, le seul commentaire qu'il a fait de la journée, c'est de dire qu'il n'y avait pas de commentaire pour l'instant.
C'est rare que Rudy Giuliani dise « je n'ai pas de commentaire ».
Non, parce que sa job, même si ce n'est peut-être pas la description officielle, c'est d'être le pugiliste en chef de Donald Trump dès qu'il y a des questions légales autour du président. Là, les questions sont drôlement embarrassantes pour l'avocat de Donald Trump.
Ces deux associés de Giuliani qui tentaient de fuir le pays, est-ce que c'est confirmé que ce sont des Russes?
Je n'ai pas la confirmation personnelle. Je l'ai entendu, mais au-delà de ça...
C'est ce qui circule.
C'est ce qui circule, mais je n'ai pas personnellement la confirmation de ça.
Si c'est vrai, quelle ironie.
Quelle ironie. Et je vais aller plus loin que ça. Sans rentrer dans les détails trop techniques, une des choses qui est reprochée à l'administration Trump dans tout le dossier ukrainien depuis les dernières semaines, c'est d'avoir poussé pour évincer de façon peut-être douteuse, je vais aller de façon très prudente, là, de façon douteuse, donc l'ambassadrice, l'ex-ambassadrice des États-Unis en Ukraine, parce qu'elle ne faisait pas l'affaire, encore une fois, pour des raisons qui étaient peut-être douteuses, de l'équipe Trump. Et ces deux types-là qui ont été arrêtés auraient aussi, de leur côté, mis de la pression sur au moins un membre du Congrès pour faire en sorte que cette ambassadrice, cette ex-ambassadrice-là, saute. Donc, il y a des liens directs et indirects entre ce que l'équipe Trump essayait de faire de ce qu'on en comprend à l'heure actuelle.
Mais c'est un peu absurde parce que quand tu es ambassadeur d'un pays, et ici, tu es ambassadeur des États-Unis, tu sers à la discrétion du président des États-Unis. Le président n'a pas besoin d'une raison pour te dire « ton mandat est terminé, tu reviens à Washington ».
Exactement, exactement. Donc, effectivement, il y a des questions qui se pose par rapport à tout ça. Qu'est-ce que ces types-là essayaient vraiment de faire et qu'est-ce qu'ils auraient vraiment pu obtenir? Donc, écoute, il y a ça aujourd'hui. Autre nouvelle également assez problématique, potentiellement pour l'équipe du président dans toute la saga impeachment. Un subpoena, ça, on a appris ça dans la dernière heure, littéralement, là. Un subpoena qui vient d'être émis à Rick Perry. Qui est Rick Perry? Un membre du cabinet de Donald Trump. C'est secrétaire à l'énergie. Et ça aussi, c'est assez complexe. On ne rentrera pas dans tous les détails. Mais ce que les démocrates veulent obtenir, les démocrates du Congrès, c'est deux choses. Premièrement, ce sont les documents qui seraient liés à sa connaissance de Rick Perry, du fameux appel entre Donald Trump et le président ukrainien. Ça, c'est une chose. L'autre chose qu'on veut obtenir de Rick Perry, ça serait des documents qui expliqueraient les liens qu'il aurait avec certains de ses donateurs politiques, de ses ex-donateurs, parce que Perry est un ancien gouverneur du Texas, donc avait besoin évidemment de gens qui lui aidaient à amasser des fonds pour ses campagnes électorales.
Et il était président, candidat à la présidence, à l'investiture républicaine.
En 2012 également. Donc, c'est un politicien de carrière, ce type-là. Donc, avait des donateurs et certains de ces donateurs-là sont, je dirais, accusés d'avoir essayé de brasser des affaires, là aussi, assez louches, ou, devine, en Ukraine.
Il y a vraiment une filière ukrainienne là, qui est en train de, je te dirais, de mettre le président des États-Unis sur le barbecue.
C'est bien dit. J'allais dire d'empoisonner sa présidence. Le mettre sur le barbecue, je pense que c'est encore mieux dit.
Mais une citation, subpoena, c'est une citation à comparaître et on sait que la Maison-Blanche va se battre pour que les... pour que ces gens-là n'aient pas à aller témoigner.
Oui, mais attention, parce qu'on se parlait de ça hier. La Maison-Blanche avait envoyé une lettre comme quoi il n'allait pas collaborer avec l'enquête du Congrès. Or, Donald Trump semble avoir reculé un petit peu de cette posture très agressive-là au courant des dernières heures en disant « si la Chambre vote formellement pour lancer une enquête, ce qu'elle n'a pas encore fait, et si les règles qui sont établies pour l'enquête sont jugées comme étant équitables, évidemment, qui est le juge de ça? Ça va être Donald Trump. Là, on va peut-être collaborer. » Donc, la porte est un petit peu plus ouverte qu'elle l'était quand on s'est parlé il y a 24 heures, mais il reste qu'effectivement, la dynamique de base qu'on a depuis maintenant deux semaines, c'est une dynamique de bras de fer entre la Maison-Blanche d'un Congrès d'un côté, pardon, et les démocrates du Congrès de l'autre.
OK. Pour situer les gens, là, je veux qu'on parle de l'histoire de la NBA et de la Chine. Okay? Pour situer les gens, il y a le directeur général d'une équipe qui s'appelle les Rockets de Houston qui a envoyé un tweet en fin de semaine où il appuyait les manifestants pro-démocratie, donc anti-dictature à Hong Kong. Et la Chine a fait ce que la Chine fait tout le temps quand elle se fait critiquer. Ben, elle s'est vengée contre la NBA et ça a des répercussions politiques.
Oui, et écoute, avant de te parler des répercussions politiques, je veux te relater deux choses qui sont arrivées au courant des deux derniers jours. La première, c'est un match de pré-saison. On se parle depuis le début de l'émission là, du premier match local du Canadien. Mais dans la NBA, c'est encore à l'étape pré-saison présentement. Donc, il y avait un match pré-saison à Philadelphie qui avait lieu mardi soir. Lors du match, il y a des spectateurs qui ont des pancartes « Free Hong Kong ». C'est écrit dessus « Libérer Hong Kong ». Qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont expulsés. Donc, on pouvait se dire « OK, c'est anecdotique ». Hier, à Washington, d'autres spectateurs, pour un autre match pré-saison qui a eu lieu contre une équipe chinoise, parce que, c'est, encore une fois, c'est de la pré-saison. Et qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont expulsés du match. Et voici le punch de l'histoire, Pat. Ils sont expulsés pendant l'hymne national américain. T'as-tu besoin de quelque chose de plus ironique?
Quel symbole.
Quel symbole. Et je t'en ajoute un autre symbole. La veille à Philadelphie, on le rappelle, l'équipe locale, c'est quoi? Les 76ers. Et pourquoi est-ce qu'ils s'appellent les 76ers? Référence à 1776, année de la Déclaration d'indépendance signée à Philadelphie.
C'est là que la démocratie américaine est née.
C'en est, honnêtement, dégoûtant. Et donc, on est là-dedans présentement et tu parles des répercussions politiques. Là, c'est rendu que tout le monde s'en mêle. Donald Trump, le premier, qui a fustigé le commissaire de la NBA. Et écoute bien ceci. Ted Cruz et Alexandria Ocasio-Cortez, un des républicains les plus conservateurs du Congrès, une des démocrates les plus libérales du Congrès, qui se sont joints aujourd'hui en émettant un communiqué fustigeant la dynamique actuelle qu'on voit.
C'est une métaphore de ce que c'est faire des affaires en Chine, ce qui se passe avec la NBA, parce que le directeur général a envoyé ce tweet-là, et il a bien le droit, les Chinois, ils ont cessé de diffuser les matchs des Rockets en Chine, et sur les sites de commerce électronique, quand tu cherchais des chandails des Rockets, là, depuis quand tu cherches des chandails des Rockets ou des trucs comme ça, là, reliés à cette équipe-là, ça n'apparaît plus, ça n'existe plus.
Un peu hasard, j'en suis sûr.
Bienvenue dans la dictature. Écoutez, l'heure qui s'en vient, actualité, opinion, Canadien.